Chapitre 57. Interlude sur Ganymède.
Ces pauvres colons primitifs,
se lamenta Mihailovitch.
Je suis horrifié. Il n'y a pas un seul piano à queue de concert sur tout Ganymède. Naturellement, le dé à coudre Doctronic dans son synthétiseur peut reproduire n'importe quel instrument, mais un Steinway est quand même un Steinway, tout comme un Stradivarius reste un Stradivarius.
Ces plaintes, tout en n'étant pas entièrement sérieuses, avaient déjà suscité des contre-réactions dans les milieux intellectuels locaux. L'émission populaire Med Matin avait même commenté perfidement « En nous honorant de leur présence, nos voyageurs distingués ont, ne serait-ce que provisoirement, hausser le niveau culturel des deux mondes. » L'attaque visait principalement Willis, Mihailovitch et Mbala, qui avaient essayé avec un peu trop d'enthousiasme d'éclairer les indigènes arriérés. Maggie M. avait provoqué tout un scandale avec un récit sans vergogne sur les amours torrides de Zeus Jupiter avec Io, Europe, Ganymède et Callisto. Apparaître à la nymphe Europe sous la forme d'un taureau blanc était déjà assez choquant, et ses tentatives pour soustraire Io et Callisto à la fureur compréhensible de son épouse Hera étaient franchement pitoyables. Mais ce qui troublait beaucoup d'habitants du satellite, c'était d'apprendre que les amours de Zeus et de Ganymède étaient encore plus perverses. Pour leur rendre justice, les intentions des ambassadeurs culturels autodésignés étaient tout à fait louables, sinon entièrement désintéressées. Sachant qu'ils allaient rester en souffrance sur Ganymède pendant des mois, ils comprenaient les dangers de l'ennui une fois que la nouveauté de la situation serait émoussée, et ils souhaitaient aussi utiliser au mieux leurs talents pour le bien de tout le monde. Mais tout le monde ne souhaitait pas en bénéficier, ou n'en avait pas le temps, sur cette frontière de haute technologie du système solaire. Iva Merlin, en revanche, s'intégrait à la perfection et s'amusait beaucoup. Malgré sa célébrité sur la Terre, très peu de Med avaient entendu parler d'elle. Elle pouvait errer par les corridors publics et les coupoles pressurisées de Ganymède Central sans qu'on se retourne sur son passage ou qu'on échange des chuchotements surexcités. À vrai dire, elle était reconnue, certainement, mais seulement comme un des visiteurs de la Terre. Greenberg, avec sa modestie habituelle discrètement efficace, s'était intégré dans la structure administrative et technologique du satellite et siégeait déjà dans une demi-douzaine de conseils. Ses services étaient tellement appréciés qu'on l'avertit qu'il n'aurait peut-être pas le droit de repartir. Heywood Floyd observait les activités de ses compagnons de bord avec amusement, mais n'y participait pas. Son principal souci était d'établir des ponts avec Chris et de l'aider à préparer son avenir. Maintenant qu'Univers, avec moins de 100 tonnes de combustible dans ses réservoirs, était en sécurité sur Ganymède, il y avait beaucoup à faire. La reconnaissance de tous les voyageurs de galaxies envers leurs sauveteurs avait facilité la fusion des deux équipages. Quand les préparations, les révisions et le ravitaillement seraient terminés, ils repartiraient ensemble pour la Terre. La nouvelle que Sir Lawrence préparait déjà les contrats pour un Galaxy 2 très amélioré avait grandement remonté le moral, même si la construction du nouveau vaisseau ne pourrait commencer avant que les avocats aient réglé leurs différends avec les Lloyds. Les assureurs s'entêtaient à prétendre que le crime de piratage spatial n'était pas couvert par leur police. Quant au crime lui-même, personne n'avait été inculpé ni même accusé. De toute évidence, le détournement avait été soigneusement préparé au cours d'une période de plusieurs années par une organisation efficace et bien financée. Les États-Unis d'Afrique du Sud, USSA, protestaient bruyamment de leur innocence et réclamaient une enquête officielle. Derbund exprimait aussi son indignation et accusait naturellement Chaka. Le professeur Kruger ne s'étonnait pas de trouver dans son courrier des messages anonymes le qualifiant de traître. Ils étaient généralement en Afrikaans, mais contenaient parfois de subtiles fautes de grammaire ou de phraséologie qui le firent soupçonner que cela faisait partie d'une campagne de désinformation. Après réflexion, il les transmit à Astropol, qui doit déjà les avoir, se dit-il. Astropol le remercia, mais, comme il s'y attendait, ne fit aucun commentaire. De temps en temps, les lieutenants Floyd et Chang, ainsi que d'autres membres de l'équipage de Galaxy, étaient invités au meilleur dîner de Ganymède par les deux mystérieux outremondiens dont Floyd avait déjà fait la connaissance. quand les bénéficiaires de ces repas franchement décevants les évoquaient ensuite, ils en venaient à la conclusion que leurs interrogateurs essayaient d'étayer une affaire contre Chaka, mais n'y arrivaient pas trop bien. Le professeur Vanderberg, qui avait tout déclenché et s'en tirait admirablement, professionnellement et financièrement, se demandait maintenant que faire de ces nouvelles perspectives. Il avait reçu beaucoup d'offres séduisantes d'universités et d'organisations scientifiques de la Terre, mais par une ironie du sort, il ne pouvait en profiter. Il vivait depuis trop longtemps dans le sixième de gravité de Ganymède et avait dépassé le point médical de non-retour. La Lune demeurait une possibilité, Pasteur aussi, comme le lui expliqua Heywood Floyd. « Nous essayons d'y créer une université spatiale pour que les outremondiens incapables de supporter 1G puissent quand même avoir des rapports en temps réel avec les gens sur Terre. Nous aurons des salles de conférences, des amphithéâtres, des laboratoires, certains simplement reproduits par informatique, mais ils auront l'air si vrais que vous vous y tromperez. Et vous pourrez faire du vidéo lèche-vitrine sur Terre pour dépenser vos biens mal acquis. » À son étonnement, Floyd n'avait pas seulement retrouvé un petit-fils, mais se découvrait un neveu. Il était maintenant lié à Vanderberg autant qu'à Chris, par un assemblage unique d'aventures partagées. Il y avait surtout le mystère de son apparition dans la ville européenne abandonnée en présence du monolithe. Chris n'éprouvait pas l'ombre d'un doute. « Je t'ai vu et je t'ai entendu aussi clairement qu'en ce moment, » dit-il à son grand-père. « Mais tes lèvres ne remuaient pas. Et le plus bizarre, c'était que justement, je ne trouvais pas ça bizarre. Cela me paraissait tout à fait normal. Tout l'incident avait quelque chose de détendu. Un peu triste. Non, nostalgique conviendrait mieux. Ou peut-être résigné. Nous ne pouvions nous empêcher de penser à votre rencontre avec Bowman à bord de Discovery, » précisa Vanderberg. « J'ai essayé de l'appeler par radio avant que nous nous posions sur Europe. C'était peut-être naïf, mais je n'imaginais pas d'autre moyen d'entrer en communication avec lui. J'étais sûr qu'il était là sous une forme ou une autre. Et vous n'avez reçu aucune espèce de réponse. » Floyd hésita. Le souvenir s'estompait vite, mais il se rappela subitement cette nuit où le monolithe en réduction lui était apparu dans sa cabine. Rien ne s'était passé et pourtant, à partir de ce moment, il avait senti que Chris était sain et sauf et qu'il se reverrait. « Non, » murmura-t-il, « je n'ai pas reçu la moindre réponse. » Après tout, cela avait pu être un rêve.